Aujourd'hui, pour ce quatrième portrait de Parlez-moi de vous, je reçois un homme de théâtre, un comédien, un metteur en scène. Un homme multicasquette qui n'a jamais cessé d'explorer de nombreux univers à travers sa carrière. C'est justement ce que l'on va aborder à travers ses rencontres, ses créations, ses souvenirs et ses projets. Aujourd'hui, encore une fois, je lance le défi le plus compliqué pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude, parler de lui. Aujourd'hui dans Parlez-moi de vous, retour sur une vie qui en a eu plusieurs, mon invité pour ce quatrième portrait est Jean-Luc Revol. Bonjour Jean-Luc Revol.
Bonjour.
Depuis 7 ans, vous êtes le directeur de la maison, une maison dont vous avez été associé pendant 15 ans, une maison qui vous connaît comme comédien, comme metteur en scène, car c'est votre vie qui a été guidée et parfois même par la comédie devant les caméras. On reviendra dessus tout à l'heure. Une vie que l'on va explorer ensemble, le théâtre, la télévision, Shakespeare, Molière, de l'année 1960 à aujourd'hui, de Nevers à Marseille. On a du pain sur la planche et en même temps, c'est sur les planches que vous êtes le plus à l'aise. On est parti ?
On y va.
Est-ce que c'est un exercice compliqué pour vous de parler de vous ?
Oui et non. En fait, on ne demande pas si souvent que ça de parler de moi. De mon travail, mais pas forcément de moi en tant que Jean-Luc Revol.
C'est arrivé récemment avec un livre. On va revenir aussi dessus tout à l'heure. Il y a un mélange de votre vie, il y a un mélange de votre vie professionnelle essentiellement, mais en même temps, votre vie personnelle a toujours été en lien avec votre vie
De toute façon, tout est lié.
Professionnelle.
Oui, tout est lié, oui.
Vous faites plus facilement parler les personnages de vos mises en scène que de vous ?
Oui et non. Je me souviens d'un article, je ne sais plus dans quel journal, peut-être dans le Nouvel Obs, je ne sais plus ce que c'était, où on disait de moi que j'étais trop discret. Mais parce que je suis pas quelqu'un qui va dans des fêtes, dans des machins.
Vous n'êtes pas une vraie personne du showbiz.
Je suis pas très jet set, ouais. Donc voilà, je cultive mon jardin de mon côté. Bien sûr, on a chacun ses réseaux, hein. Mais voilà, donc je m'épanche pas beaucoup et sur les réseaux sociaux non plus d'ailleurs, sur ma vie privée qui est privée.
Vous ne l'avez jamais été.
Non.
Pour commencer ce voyage à travers votre carrière et même votre vie. Nous partons en 1960, cette année-là. Johnny Hallyday a encore une voix fluette pour chanter les souvenirs, souvenirs. Et Sacha Distel, il est sur les planches avec son beau chapeau.
J'ai mis un ruban sur mon chapeau parce que ça fait plus rigolo.
Ces planches, devant un public, vous les connaîtrez quelques années plus tard. Car cette même année à Nevers, le 10 mai précisément, le petit Jean-Luc vient au monde. Vous avez grandi à Nevers, très jeune. Est-ce que l'art a fait partie de votre vie ?
Assez rapidement, oui. Pardon, je reviens un petit peu en arrière, mais c'est amusant que tu mettes Sacha Distel, parce que moi, j'étais un peu biberonné à la télévision avec ma grand-mère, qui habitait au Borlée. Et on regardait beaucoup ce qui s'appelait le Sacha Show, ça te dit rien, toi ?
Alors moi, personnellement, non. Mais grâce aux archives de l'INA maintenant sur YouTube, qui servent à nous rappeler ces souvenirs-là.
Voilà. Mais ce qui était intéressant dans ces émissions, c'était que, bon, il y avait les chanteurs, évidemment, mais surtout les chanteurs étaient jouer des scénettes, des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Henri Salvador, tout ce truc. Et moi, j'adorais ça, déjà.
Voilà. C'est notamment voir ces shows-là à la télé qui vous a donné envie de faire plus tard ce que vous avez fait.
Peut-être, parce que quand on est entre guillemets provincial, et c'est pas une tare, évidemment on rêve de choses qui sont pas accessibles, surtout en 60.
Et ce milieu-là paraît loin.
Voilà, ça paraît très loin. Mais c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le milieu artistique. Bon, après on pourra développer, mais c'est vrai que la Maison de la Culture, ça a été une étape. Le club théâtre de Raoul Follereau, ça a été une étape très importante aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça.
et vous avez grandi dans un milieu familial où l'art avait déjà une importance. Vous avez été éduqué avec l'art ou
pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout. Mais mes parents étaient abonnés à la Maison de la Culture, oui. Donc j'ai vu. J'ai vu tellement de Brassens, je sais pas quoi, Bernard Allaire, avant Vrard, enfin j'ai Michel Bouquet. Quand j'étais petit, même Brassens, je crois que je m'étais endormi parce que j'étais vraiment trop petit. Et j'aimais bien, hein, mais donc on sortait pas mal, ouais. À la Maison de la Culture, c'était tout ce qu'il y avait déjà.
Et à quoi il s'intéressait le petit Jean-Luc quand il était petit?
Il s'intéressait aux voitures. Au Dinky Toys, au Corgi Toys.
Alors là faut expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Désolé, ça peut mettre un coup de vieux.
Ouais. Ah non, mais c'est normal, c'est des années.
Là, on sait pas.
Alors, les Dinky Toys, c'était des voitures en fer. C'était un peu la Rolls de la voiture miniature. D'ailleurs, maintenant, moi, je les ai encore. Hein. Je joue aux voitures dehors, dedans. Enfin, comme un gamin. Enfin. Je faisais du vélo. Enfin, bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Et il était déjà créatif. Il était rêveur.
Ouais, sûrement.
Parce que beaucoup d'artistes disent que enfant déjà, ils étaient rêveurs d'un autre monde, peut-être.
Oh, d'un autre monde, j'en sais rien. Mais je me souviens quand j'étais petit, j'avais écrit une histoire qui s'appelait. Je raconte des trucs, je raconte jamais ça. Mais l'histoire de Mimi le poussin, c'était un truc bête, je pense. L'histoire d'un poussin, quoi.
Ouais.
Enfin. Quand je dis j'ai écrit une histoire, je pense qu'à mon échelle, ça devait tenir sur une page et demie. Hein.
Mais il y avait déjà une certaine création d'un personnage.
J'en sais rien. Oui, mais là tu me dis ça, mais je n'étais pas dans le calcul. C'est juste que... Moi, je suis enfant unique aussi, donc... je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Mmh. Et donc, c'est peut-être que ça...
Créer un personnage comme ça pouvait vous amener une certaine présence que vous n'aviez pas.
Oui, des mondes, de partir dans des choses un peu plus... Puis je lisais beaucoup. Ouais, ça, j'adorais ça.
Quel souvenir vous avez de votre enfance, justement, à Nevers? Vous dites que ce milieu du spectacle vous paraissait assez loin, mais qu'en même temps, il y avait déjà cette maison de la culture.
Oui, enfin, l'enfance, quelle période exactement? De quel âge à quel âge? Parce que ça va,
jusqu'à,
ça évolue.
Jusqu'à l'école, jusqu'au lycée.
Ah, jusqu'au admettons. Lycée, donc, oui, jusqu'à Raoul Follereau quand même, là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé autour de 15 ans, de 13-15 ans. Bon, quand j'étais petit, quel souvenir j'ai? Bah, j'ai souvenir comme tout le monde là où j'habitais, et puis des copains, des trucs comme ça, quoi.
Mais... Et à ces âges-là, on demande souvent qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que vous répondez?
Moi, je voulais être vétérinaire, moi, parce que j'adore les animaux.
Donc, quelque chose qui a rien à voir avec
absolument rien
avec maintenant.
Ouais.
Et vous créez déjà des scénettes, donc petit, vous le dites, avec ce fameux personnage.
Oui, on créait des scénettes, puis il y avait des choses qui existaient au Collège Victor Hugo à l'époque, qui s'appelait le 10%, je crois, ça s'appelait comme ça. Et pendant 10%, certains professeurs, et c'était notamment les professeurs de français d'ailleurs, quoique histoire géo aussi, je me souviens. Et pendant 10%, on les faisait faire autre chose. Et j'avais une professeure qui s'appelait Mademoiselle Clément, exactement. Comme quoi, ça reste, qui nous faisait travailler des scènes de l'avare qu'on avait représentées à la fin. Ça, c'était vraiment la première fois que j'ai joué une scène de l'avare avec, je me souviens, Annick Monod, dans le gymnase du Collège Victor Hugo. C'est marrant, mais je pense qu'il y a des graines qui sont semées comme ça et qui finalement, doivent pousser, malgré nous.
On est dans la partie enfance. L'enfance, c'est aussi les études. Quel rapport vous aviez avec l'école?
Ça va, très bien.
Vous étiez un bon élève?
J'en sais rien. Oui, j'étais pas un mauvais élève, j'étais pas non plus. J'étais pas très bon en maths, ça c'est sûr. Parce que du coup, j'ai pas pu faire vétérinaire. Et quand j'ai voulu m'inscrire à l'IDEC, à l'école de cinéma, il y avait un trop gros niveau de maths. C'était trop compliqué pour moi à l'époque. Mmh. Donc j'étais plus après sur une filière littéraire, non? Et puis j'avais des parents qui me soutenaient, ils me disaient oui d'accord le théâtre c'est bien mais bon comme d'habitude faut que t'aies un diplôme tout ça.
Ils voyaient ça comme un milieu un petit peu plus abstrait que moins concret qu'un autre domaine peut-être.
Ouais bah oui bien sûr mais en même temps ils n'étaient pas contre mais ils voulaient que j'ai un diplôme, c'est pour ça que je suis allé à Clermont et que j'ai fait donc ma maîtrise d'anglais, mon doc d'italien. Mmh. Mais et après. Je vais vite, hein. Mais et après quand je suis revenu, il y a eu le service militaire, bon c'est un an moins. Et en revenant, j'ai enseigné au Courdi 6 mois, quoi.
Oui, vous étiez prof d'anglais, c'est ça?
Ouais.
Mais avant ça, vous avez été en études à Raoul Follereau et vous dites qu'il y a une importance avec le lycée Raoul Follereau, c'était la section théâtre.
Alors c'était Ouais, c'était une c'est pas vraiment une section théâtre, c'est que alors c'est concomitant à la Maison de la Culture. Il y avait 73 je crois à peu près à la Maison de la Culture des cours de théâtre comme il y a maintenant, enfin qui sont avec le conservatoire maintenant, mais et on s'était inscrit avec deux copines à ce cours, Brigitte Mondin et Florence Moitrier, et on suivait les cours donc de Simone Witt, c'était la une des comédiennes de Besoin de Culture, et puis du coup comme on était ici on avait monté une pièce puis pendant je dirais 2-3 ans pas plus ici, donc on avait une petite cellule de club théâtre qu'on répétait entre midi et deux grâce à Marguerite Gainsbittel qui était la proviseure de l'époque et qui était très ouverte à ce niveau-là. Puis après, ça a continué, quoi.
C'est à ce moment-là où vous vous êtes dit peut-être que c'est une roue de secours si j'arrive pas à devenir vétérinaire
par
la suite.
Non, j'étais même pas. J'étais plus dans le plaisir du jeu.
Ça restait juste un petit hobby à côté. C'était pas
forcément. Ouais, mais c'était. Ça, on adorait ça. Hein. Mm.
Et puis vous devenez prof d'anglais par la suite.
Ouais.
Pas longtemps, 6 mois.
Oui.
Vous abandonnez cette profession pour vous lancer définitivement dans la comédie. Ça a été un déclic. Finalement, ce passage en étant prof, vous vous êtes senti pas forcément à l'aise ?
C'est pas que je me sentais pas à l'aise, mais en fait, je me suis très rapidement dit, oh là là, je vais pas toute ma vie faire this is a bee, this is a cow, John Betty are going to school.
Même s'il y a malgré tout une sorte de représentation en tant que
prof. Oui, c'est pas pareil. Hein.
C'est pas la même, mais ça reste toujours une personne debout qui se produit devant un certain public quand même.
Ouais, on peut dire ça, mais c'est quand même pas la même chose. Et voilà, je me souviens que j'étais allé voir le proviseur à l'époque. J'avais dit, écoutez, voilà, j'étais maître auxiliaire, hein, j'étais pas encore titulaire. Et j'avais dit, écoutez, non, je vais partir à Paris faire du théâtre. Il m'a regardé un peu avec des yeux ronds, évidemment. Et puis voilà.
Et puis vous intégrez les cours Florent, donc, par la suite.
Voilà. Et j'avais aussi tenté le concours de l'école normale pour être instituteur, que j'ai pas eu.
Ah, vous avez quand même tenté ce concours?
Ouais, je dis, voilà.
Oui, vous êtes content finalement maintenant l'avoir échoué. Vous intégrez les cours Florent, retour aux études, mais dans un domaine cette fois-ci qui confirme votre volonté très rapidement.
En fait, entre-temps, il y a eu toute l'aventure de 18 à 23 de Théâtre du Boeuf-Mott, qui était une compagnie amateur. On était toute une équipe et on montait des spectacles. En plus, on faisait des spectacles cabaret en boîte de nuit avec toute une bande. Quand je suis rentré, en fait, j'essaie de mettre tout dans l'ordre. Hein. Après le service militaire, j'ai travaillé avec Serge Poncelet, qui était directeur de la Maison de la Culture, qui m'a engagé sur un spectacle, qui s'appelait Le Roman de Renard.
Nous sommes en 1985.
Bravo, c'est bien, vous êtes là-bas. Et après ce Roman de Renard, donc ils sont partis jouer Le Petit Prince en Afrique, je crois. Donc moi, j'étais pas dans ce spectacle. Qu'est-ce que je fais? Donc là, il y a eu la petite parenthèse prof Courly. Et je dis, de toute façon, à Nevers, je trouve pas de cours pour travailler les classiques. En fait, j'ai envie de travailler les classiques comme un pianiste peut travailler des Chopin.
Faire ses gammes, en fait.
Voilà, faire ses gammes, c'est ça, exactement. Et donc, je suis monté à Paris, cours Florent, ouais, voilà.
Et vous êtes même devenu professeur des cours Florent par la suite.
C'était un truc assez dingue, ça aussi.
Oui, parce que c'est arrivé très rapidement, en fait.
En fait, je suis arrivé, j'ai fait une demi-première année. Ok, j'ai fait une deuxième année. Et en deuxième année, on montait des ateliers. Donc, j'ai monté un atelier, un spectacle, en fait. Et François Florent, qui nous a quittés l'an dernier, malheureusement, m'a dit, écoute, ça va. Tu vas pas faire de troisième année. Je vais te donner une classe de première année. Je dis, alors, c'est pas l'enseignement, ça me faisait pas peur, j'en sortais.
Oui.
Mais... Tu lui disais, mais moi, je veux faire Cardin. Alors, Cardin, faut savoir, Cardin, c'était un peu le résultat de troisième année.
D'accord.
Tous les élèves passaient des scènes à l'espace Cardin devant des professionnels. Mmh. Donc, moi, je dis, mais je veux pas. Donc, j'ai fait Cardin avec les troisième année. Enfin, c'était un cirque, ça. Grâce à Cardin, j'ai fait mon premier tournage avec Pierre Tchernia.
Oui.
Et bref. Et ça a été, en fait, assez court parce que ça fait un an et demi de cours chez Florent, en fait. Voilà.
Et ensuite, donc, il y a cette expérience en 85, donc, avec Serge Fonsolet.
Ouais.
Et puis, un an après, il y a une création. C'est la création de votre compagnie, Théâtre du Caramel Fou.
Oui.
On va en parler parce que c'est, je pense, votre œuvre la plus importante dans votre carrière professionnelle. Mais juste avant, on va reprendre un petit peu nos esprits.
Oui.
Je vous ai demandé, par mail quand on a quand on a échangé sur cette émission. Je vous ai demandé de me donner deux sons que vous aimeriez qu'on passe.
Ouais.
On va tout de suite écouter Chris Isaak. Ça s'appelle Wicked Game. Pourquoi cette musique?
J'adore, moi, simplement, sinon ça serait pas là. Et puis parce que c'est, en fait, c'est un disque que j'écoute toujours depuis le temps où il est sorti. Surtout dans des moments d'apaisement où j'ai besoin d'être un peu.
C'est une musique qui vous rend zen.
Zen, non, mais qui me détend. Parce que je suis un grand nerveux quand même.
Bah, on va se détendre avec, avec cette musique et on revient juste après. On reviendra justement donc sur cette compagnie du théâtre du Cabaret Melfou que vous connaissez très très bien, si je me trompe pas.
With you.
une invitée dans Parlez-moi de vous du mois de mars, c'est Jean-Luc Révol. On a parlé de son enfance, on a parlé de la scolarité également. Mmh. On va revenir un petit peu sur le côté professionnel.
D'accord.
Maintenant, de ce que vous avez fait durant votre carrière. On s'est quitté juste avant cette musique en 1985 avec votre début professionnel en fait, avec Serge Fonsolé.
Ouais, c'est mes premiers cachets professionnels. Effectivement, 85.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
25 ans. Je suis né en 60.
Oui, c'est vrai. Ton avis. C'est vrai. Mais comme vous, j'ai pas été très fort en maths.
Ah ouais.
D'accord. Et un an après, en 1986, la compagnie Le Théâtre du Caramel Fou prend vie. C'est votre compagnie. C'était une envie depuis toujours de créer votre compagnie.
On avait envie de créer une compagnie, puis aussi parce qu'on était une bande de copains. Et on avait envie de faire ça. Il y avait Jean-Michel Moncain, Jim Roudier, Corinne Dumas, Christine Deliera, Béatrice Roman, j'espère que j'en oublie pas. Enfin bref, on était comme ça toute une bande et on traînait beaucoup au pub, voilà. Et puis, on avait envie de faire des choses, quoi. Voilà.
C'était aussi pour être libre de créer, d'adapter aussi ce que vous vouliez.
Ouais, enfin moi j'ai même commis une pièce, donc c'est-à-dire au point où j'en étais quand même. Mais je suis pas du tout auteur, hein. Mais là bon, en fait il y a une inconscience. On était prêt à tout, donc on faisait des spectacles au théâtre municipal, en boîte de nuit, on a même joué au pub parce qu'enfin sous le pub il y avait un petit pub.
Quand vous parlez de ce pub, là, c'est où?
Au Donald,
à Nevers.
Ouais.
D'accord.
Il y avait une petite cave en dessous qui existe toujours, hein, mais qui est plus. On peut plus s'en servir, on vous en a joué pas mal, là.
Oui, c'est dans la salle sur la gauche. Quand on rentre dans le Donald, c'est une trappe qui s'ouvre.
Voilà, et par
le
descendre.
Sol. Effectivement. Pourquoi le nom Théâtre du Caramel Fou?
Alors, ça, c'est. Les noms de compagnie, c'est. C'est un peu bizarre. Je me souviens très bien qu'on était au théâtre municipal avec Jean-François Save, qui était le directeur de l'époque, et on cherchait, on a mis plein de noms comme ça, et je pense qu'il devait y avoir la fête du parc, parce que le caramel fou, c'est un espèce de caramel filant, Et on a dit, tiens, on va prendre ça. Voilà.
Ah oui, vraiment, c'est d'accord.
Ouais.
Vous seriez tombé sur une mouette devant vous.
Théâtre de la mouette, c'est moins bien.
Pourquoi pas?
Voilà. Enfin, après, le problème, c'est qu'on savait pas que ça durerait aussi longtemps. Moi souvent maintenant je dis TCF. Apparemment je disais TCF parce que ça, pour le ministère ça fait plus sérieux.
Oui, c'est sur les papiers. C'est mieux de mettre TCF.
Oui, mais la première compagnie d'Olivier Py s'est appelée de l'inconvénient des boutures. C'est pas mal non plus. Donc.
Et votre première pièce, elle s'appelle Pacifique Champagne.
Voilà.
Je me trompe pas?
Ouais.
Que vous avez joué au Festival d'Avignon et au Théâtre de Nevers.
Ouais.
Quel souvenir vous avez de cette première expérience?
Voilà, c'est bien ce que
Champagne.
Je dis, une grande part d'inconscience. C'est-à-dire qu'on avait fait ça avec des copains du cours Florent. On avait écrit un truc complètement brinzingue.
C'était quoi le synopsis de cette pièce?
Alors, c'est une bonne idée, ça. Parce que qu'est-ce que c'était le synopsis? Une espèce d'histoire d'espionnage complètement cinglée.
Un thriller sur scène.
Ouais, mais avec des personnages complètement loufoques, ouais. On avait joué à ça à Avignon, mais on n'avait pas de sous. Je me souviens très bien, on avait loué l'équivalent d'une pièce comme ça, et on était 6 ou 8 avec sur des lits superposés, au camping. Mais c'est pas grave, on y allait.
C'était cette forme d'inconscience que vous aviez. Est-ce qu'elle est restée tout au long de l'histoire de cette compagnie ou est-ce que...
Non, quand même, parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Parce qu'après, les choses sont formalisées, puis se sont professionnalisées. Donc là, après...
Vous êtes entouré aussi de personnes...
Oui, même si je trouve que c'est un travail solitaire quand même.
C'est la dernière création, elle s'appelle Le Chevalier et la Dame.
Ah oui, là, le bon dans le temps.
C'est plus de 50 spectacles en tout qui ont vu le jour au sein de votre compagnie, car il y a d'autres collaborations à côté de la compagnie que vous avez fait, sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Shakespeare, Molière, Le Sage par exemple, ils ont été mis sur le devant de la scène à travers leurs pièces souvent méconnues, que vous avez, vous, abordé par des textes aussi plus contemporains.
C'est ce que je disais au début, en fait. Comme je suis vraiment monté à Paris pour travailler les classiques, c'est vrai que les premiers spectacles, c'était plutôt Molière, comme vous dites, Le Sage, Marivaux, Shakespeare. Donc forcément, je me suis un peu jeté dans les classiques, voilà, avant de revenir à des choses plus contemporaines.
Mais vous, ce que vous aimiez, c'était les pièces de ces auteurs-là qu'on ne connaissait pas forcément.
Oui, en plus, c'est bien d'aller fouiller. C'est comme à l'opéra, si on voit que Carmen, c'est dommage. Mais
il y a un certain travail d'archives aussi.
Oui.
Historique.
Bah oui, là pour l'année prochaine, faire un petit spectacle sur des foires, du théâtre des farces du Moyen Âge. T'as trouvé ça où? Bah chercher. Voilà, faut chercher.
Quel travail vous a demandé le plus de temps au sein du Caramel Fou?
Quel travail? Peut-être La Tempête, oui. 97, un gros spectacle.
C'est quoi ce spectacle?
C'est Shakespeare, La Tempête à la Criée, parce que après le stratagème, La Princesse d'Élide, bon, ça a vraiment amorcé le travail, le fait que la compagnie soit connue.
Oui, c'est la première pièce qui vous a mis le plus sur le devant de la scène.
Pas le plus, c'est-à-dire ça a amorcé les choses à Avignon.
D'accord.
C'est un gros succès, on a tourné pendant 3 ans. Et puis il y a eu le Marivaux, qu'on a créé au Petit Théâtre d'ailleurs aussi, qui lui aussi à Avignon a fait un gros succès, qu'on a tourné pendant 3 ans, qu'on a joué à la Comédie de Champs-Élysées, qu'on a là. Donc, et après, on a eu cette proposition du Théâtre National de Marseille, à la Criée, de mettre en scène La Tempête. Pas La Tempête, j'aurais proposé La Tempête, mais...
Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que vous avez fait une rencontre qui vous marquera, c'est avec Jean Marais.
Enfin, la pièce a été créée avec Michel Duchaussois, car il y avait d'autres engagements, il pouvait pas le reprendre à Paris. Et effectivement, grâce à Brigitte Fielberg, qui était l'assistante de Jean-Claude Brialy, et Jean-Claude, on m'a demandé qui pourrait le remplacer. Et comme j'avais déjà contacté Michel Piccoli, qui lui ne pouvait pas le faire, à cause d'un problème de planning. On avait pensé à Jean Marais, et donc, comme j'étais à Marseille à ce moment-là, on est allé à Valoris le rencontrer, et puis normalement, il aurait dû faire La Tempête.
Voilà. C'est une des rencontres qui a marqué votre compagnie, il y a eu d'autres rencontres aussi, d'autres collaborations avec d'autres acteurs.
Ça a marqué la compagnie, moi, ça m'a marqué, moi, personnellement.
Personnellement.
C'était un homme incroyable, incroyable.
Quel acteur, justement, que vous avez rencontré grâce à votre compagnie, en collaboration avec votre compagnie, vous a marqué?
Au niveau des comédiens, il y en a vraiment deux. Il y a Philippe Torreton et Nils Arestrup. Vraiment. Ils sont des monstres de scène. C'est un bonheur de travailler avec eux.
Vous avez aussi appris en les regardant jouer, en apprenant de leurs gestuels.
Nils, c'était un peu compliqué parce que j'avais quand même que 37 ans et j'avais un peu la trouille, mais ça s'est super bien passé.
Et puis il y a donc cette rencontre avec Jean Marais, on en parlait juste avant pour La Tempête de Shakespeare, il vous a adressé une lettre. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de cette lettre. Elle a été exposée pour ceux qui sont venus voir l'exposition.
Oui, ils m'ont demandé de la mettre dans une vitrine. Je dis bon, ok, si vous voulez. En fait, Jean est tombé malade c'était la reprise Paris se faisait, on a commencé à répéter. Il s'est trouvé qu'en même temps, je devais terminer les répétitions de Qui a peur de Virginia Woolf, donc avec Nils Arestrup et Judith Magre. Donc j'avais une semaine d'arrêt. Pendant cette semaine d'arrêt, il est allé sur la tombe de Cocteau, il a attrapé froid. Bon bref, tout ça s'est enchaîné assez rapidement et il est allé à l'hôpital parce qu'il avait je pense qu'il avait d'ailleurs faux poumon, c'était compliqué.
Un problème pulmonaire.
Ouais. Voilà, un problème pulmonaire parce qu'il avait quand même 86 ans à l'époque. Et du coup, il n'a pas pu faire le spectacle. On a pensé le repousser. Et donc, effectivement, il m'a adressé une lettre d'excuse de ne pas avoir fait le spectacle et d'avoir mis tout le monde dans l'embarras. Et c'est assez rare. Des comédiens, je ne vais pas dire à l'ancienne. Moi, je trouve que maintenant, les comédiens sont plus des mercenaires. Ils sont plus centrés sur eux. Mais ils pensent plus... Ils pensaient tout de suite,
pensaient au jeu avant tout. Ouais, ok, d'accord.
Voilà, qui mettaient dans l'embarras.
Et cette lettre, justement, elle était exposée dans l'expo TCF Jean-Luc Révol, Un chemin de théâtre. Cette expo, c'est Christophe Woutz qui l'a créée. Est-ce que... Vous, en voyant cette expo, elle vous a aussi appris certaines choses sur votre compagnie.
Pas quand je l'ai vu. Quand Christophe l'a préparé, il a déterré beaucoup de choses que j'avais oubliées. Oui. Après, l'exposition elle-même, non, puisque j'avais un peu suivi, participé, pas au montage, mais au choix des choses. Mais oui, c'était étonnant. Tu disais que j'avais fait 50 spectacles, je ne savais même pas que j'avais fait 50 spectacles.
Cette expo, elle mettait en avant les costumes, justement, de ces fameux 50 spectacles. Les costumes ont une part importante pour vous dans la création d'un spectacle et vous le mettiez surtout en avant dans cette compagnie. Vous pensiez avant tout aux costumes?
pas avant tout. Ça dépend de l'univers qu'on va aborder. Et puis moi, je travaillais avec une costumière qui a arrêté maintenant, Aurore Popineau, et avec qui c'est un compagnonnage de 20, plus de 25 ans. Donc forcément, moi, je suis assez fidèle aux gens, donc surtout quand ça se passe bien. Et c'est quelqu'un qui travaillait vraiment, qui faisait des merveilles, des merveilles.
Quel costume, quel spectacle vous avez trouvé qui était le plus abouti avec les costumes?
Il y en a tellement. Oh, c'est compliqué, là.
Surtout avec les costumes d'époque?
Bah, pas forcément. Quand on a fait le Dorothy Parker, c'était les années 25-30. C'était magnifique, ce qu'elle avait fait aussi. Ou la farce enfantine, qui était complètement baroque. Aussi, dans l'Espagne, ça n'avait rien à voir. Bah, après, il y a le costume d'époque, bien sûr. C'est sûr qu'un jean et un t-shirt, c'est moins... Ça va plus vite. Forcément.
Ça fait partie de vos collaborations au sein de votre compagnie TCF, le Caramel Fou.
Ouais.
Et puis il y a de nombreuses collaborations aussi en dehors de votre compagnie, en tant que comédien, metteur en scène. Cette première expérience, c'est en 1989. Et si je vous dis Parfum de scandale, est-ce que vous vous souvenez à côté de qui vous jouez?
Heureusement, j'en ai encore parlé hier, tiens, avec un copain. Oui, alors ça, c'est assez amusant, en fait. C'est-à-dire que je travaillais avant... pour les films du Losange, bref, et qui est une maison de production à Paris, et j'avais une amie qui travaillait là-bas, qui travaillait avec Eric Romer, enfin bref, parce qu'après j'ai aussi travaillé avec Romer, mais qui réalisait un film, donc pour la 7, enfin la 7 qui est l'ancêtre d'Arte.
D'Arte, oui.
Et puis elle m'a demandé si je voulais être un petit peu homme à tout faire là-dessus, voilà, conduire les voitures, machin, puis c'était pas mal, hein. 92, 32 ans, c'était sympa. Donc on est parti tourner à Marseille pendant 2 mois. Et donc c'était Brigitte qui avait le premier rôle.
Brigitte Lahaye, donc.
Ouais, qui faisait plus de porno depuis longtemps, heureusement.
Ancienne star du X qui, maintenant, travaille à la radio. Elle travaille sur Sud Radio, elle a une émission sur Sud Radio.
Exactement. Ouais. Enfin, à un moment que je l'ai pas vue, j'aime beaucoup Brigitte. Super. Ouais. Et puis elle préparait ce petit spectacle de sketch, on va dire, qu'elle avait écrite. Et puis elle m'a dit, tu peux pas me mettre en scène? J'ai dit, si tu veux. Donc voilà, on a fait ça au plateau 26 à Paris, qui est un petit café théâtre, sympa comme tout. Et en plus, je jouais avec elle, je crois, un sketch. Il me semble bien. Je jouais un curé, je crois. Oh, c'est vieux ça.
Et puis ça va se suivre avec d'autres rencontres, Sarah Giraudeau, Anne Bouvier, Valérie Benguigui, Marina Foïs, que vous avez mis en scène également 2 fois, Marina Foïs, si je me trompe.
Marina, en fait 3.
3 fois.
Parce qu'elle a remplacé aussi dans La Princesse d'Élide. Ouais.
Ah, voilà. Ouais. Et vous ferez de nombreuses rencontres et même retrouvailles, notamment avec Denis D'Arcangelo.
Ah oui.
Et Denis D'Arcangelo, c'est un des 2G. Les 2G, c'est une création commune en 2012 que vous avez joué également ensemble, du musical.
Oui.
Un aspect alors qui rejoint le théâtre, qui rejoint la comédie, mais qui est un art totalement différent en
fait. Si on regarde bien, moi j'aime bien faire des choses différentes. Donc j'ai fait du théâtre musical, j'ai fait de l'opéra, j'ai fait de la comédie musicale. Et puis là, on avait un petit peu envie de ressusciter les duettistes pendant la guerre, après-guerre, et de s'inspirer un peu de Charpigny et Brancato. Et puis on a créé ce spectacle, donc c'est assez amusant parce qu'en fait j'ai pas fait la mise en scène parce que on a beaucoup travaillé par impro, par improvisation, et on a gardé des choses, et puis on a fait des recherches pour trouver des chansons, et puis on a fait écrire des nouvelles chansons par François Morel, par Pierre Note, tout ça, et qui nous ont écrit des chansons, et voilà, on a sorti ce spectacle, pareil, qui a tourné pendant 3 ans.
Vous avez même continué aussi après avec des guests. Il y a eu une période.
Ah bah les guests, c'est la fin. On nous a demandé de le reprendre à un moment, c'était au 20e je crois, 20e théâtre à Paris. 3 jours, elle me dit ouais d'accord, mais à ce moment-là, c'est un truc un peu différent. Donc on avait un guest charge par jour. Et quand on a fait la dernière à Nevers en fait, donc il y avait 4 guests, les 3 de Paris plus Juliette. Il y avait Juliette qui est venue à Nevers, c'est longtemps qu'elle voulait le faire, et puis qui avait dû voir un spectacle 6 ou 7 fois. Il y avait un membre d'Alire qui l'a vu au moins 4 ou 5 fois, Nicole Croisy et Caroline Loeb.
C'est le musical, c'est un aspect. Donc, vous avez un petit peu répondu à la question que je voulais vous poser. Vous aimez explorer des univers différents. Ouais. C'est ce qui vous importe. Vous n'arrivez pas à rester en place sur un univers type.
C'est pas.
Les spectacles musicaux aussi que vous avez fait.
Oui, j'en ai fait beaucoup. Il y a eu le Molière pour le Cabaret des Hommes Perdus, qui était un spectacle complètement hors norme aussi, qu'on a répété pendant 2 mois au théâtre municipal un été, qu'on a créé au Rond-Point. Je me disais, wow, ça passe ou ça casse, puis bah c'est bien passé du coup. Donc c'est plutôt bien. Puis on a une autre préparation pour dans 3 ans aussi pour faire finir la trilogie aussi.
On peut avoir une info ?
Non.
Allez.
Bah non, mais je sais même pas ce que ça va.
Ah,
être.
Vous savez pas encore.
Je sais que ça va s'appeler Clown, mais avec d'accord. un K, mais c'est sur le monde forain, voilà.
D'accord.
Mais l'auteur, il faut qu'on travaille. Avant.
Affaire à suivre alors.
Oui, 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 c'est pas pour tout de suite.
Il y en a d'autres des univers aussi, on va revenir dessus juste après le deuxième titre.
D'accord.
Que vous m'avez proposé, c'est Asaf Avidan, ça s'appelle ouais. Lost Horse.
Ouais.
Pourquoi ?
Asaf, j'adore. J'adore sa voix. Je l'ai vu au Zénith cette année. Enfin, c'est une bête de scène avec vraiment un univers complètement différent de ce qu'on peut voir. Et j'adore, quoi. J'adore l'écouter.
Eh ben, on va le faire découvrir aux auditeurs qui ne connaissent pas. Et juste après, on va parler télé un petit peu. On parlera même un petit peu publicité. À tout
d'accord.
à l'heure. I want you to hold me perpendicularly only. Sundown Father God. We were born to fear. I want you to hold me perpendicularly holy. Son of Father God, we were born to fear. All my body's undulating back and forth, but it's too late. There's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly only. Son of Father God, we were raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are whitening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love. Asaf Avidan, c'est le choix de mon invité pour ce numéro de Parlez-moi de vous, mon invité Jean-Luc Crévol. Merci d'avoir accepté cette invitation.
Bah avec plaisir.
Je vous ai pas remercié en début d'émission.
Ah non. Ouais.
Peut-être que vous me remercierez pas en,
oh, si, si,
en fin
va.
D'émission.
Ça se passe bien.
Ça va.
Ça va vite. Hein, mais ça va bien.
Vous n'étiez pas très à l'aise forcément de parler de vous. Que c'est pas un exercice.
Non, c'est pas un exercice que je fais jamais.
C'est une première.
C'est un peu
alors.
Arrivé cette année à cause du bouquin, mais je fais jamais.
C'est vrai, ce bouquin, on va revenir dessus, ouais. Jean-Luc Crévol, l'art du décalage. Mais juste avant, on va revenir sur Jean-Luc Crévol,
yes.
L'art de la télé.
Oh my god.
Parce que vous avez un passif, un passif de téléfilm.
Ouais.
Si je peux me permettre, oui. Vous êtes un homme de télé, vous avez joué dans de nombreux téléfilms quand même.
Oui, en même temps, si on met tout bout à bout, ça va faire une grosse heure et demie. Hein.
Pas, ça pourra faire un film entier.
Non, je crois pas.
Joséphine Ange Gardien, Julie Lescaut, Les Cordiers.
Ouais.
Par exemple.
Les Cordiers, ouais, parce qu'en plus, les Cordiers, j'ai rencontré Bruno Madinier, qui est toujours un ami. C'est un type super.
Vous avez gardé un contact de cette expérience-là.
Ouais, c'est super.
Justement, cette expérience, qu'est-ce qui change dans la comédie comme celle-là, et celle d'être sur scène au théâtre?
Ah, moi, je préfère être au théâtre. Hein. Il y a pas photo. Les tournages, c'est compliqué, quoi. Puis moi, j'ai toujours peur de pas savoir mon texte. J'apprends difficilement. Quand le texte change beaucoup, et c'est marrant parce que Bruno, on en parlait. Je me souviens dans ce, c'était un Cordier, oui. Et je me plante dans la première prise. J'étais pas très bien. C'était tout début où je tournais. Donc,
vous aviez beaucoup de répliques. Dans ces expériences-là.
Il y avait pas mal de ouais. Le rôle était. Je jouais un horrible médecin anti-avortement. Tout à fait moi, quoi. et je me plante et j'étais mal, tu vois. Et il me dit, mais non, mais t'inquiète pas, c'est la télé, on recommence. Et ça m'a vachement détendu. Ouais. En fait, c'est vrai, on recommence.
Oui, c'est ça, c'est le but de pas être en direct, finalement. Maintenant, si vous dites une bêtise.
Mais c'est vrai que j'ai toujours peur de mon texte. Quand je vais à des essais, des castings, j'ai toujours peur de le savoir. Avant, je trichais un peu, maintenant que j'ai besoin de lunettes, alors je voulais vraiment de le savoir. Bon.
Vous avez pas l'air très emballé par... par cet univers-là, c'est peut-être un des univers qui vous plaît le moins.
Non, puis maintenant la télé, ça tourne super vite, avec des réalisateurs qui souvent donnent aucune indication. C'est pas trop bon truc.
C'est pour ça que vous n'y retournez pas et que votre dernière expérience, elle date de 2017.
C'est possible. C'était quoi?
Je sais pas.
Moi non plus.
J'ai juste vu.
C'est quoi le dernier truc? Ça devait être un Julie Lescaut, un des derniers Julie Lescaut. Ouais.
Ah, j'ai juste vu 2017, dernière.
Comment ça s'appelle qui joue dans le Julie Lescaut là? Oh là là.
Celle qui joue Julie Lescaut.
Ouais.
Oui. Je n'ai pas son nom en tête, mais.
Oh là là, mon Dieu.
Bon, les gens dans la voiture qui nous écoutent sont en train de dire, mais si, c'est elle.
C'est
pas grave.
On oublie, hein.
Et puis, en 98, vous jouez dans un épisode de Joséphine Ange Gardien.
Ouais, très peu.
C'était juste un passage, il n'y avait pas de réplique. Vous sortiez pas de son sac à main.
Non, mais c'était vraiment un petit truc là. Je jouais un infirmier, je me souviens. Mais je me souviens plus ce que je faisais. C'était petit ça, tout petit.
Et comme tous les téléfilms, il y avait des coupures pub. Et il y avait peut-être celle-là.
C'est quoi?
Identification vocale enclenchée.
Commandant Bichel, matricule 1309.
Fréquence non identifiée.
Commandant Bichel, c'est moi.
Non identifié.
Rhinofébrale combat le rhume, l'état grippal et vous remet sur pied rapidement.
Commandant Mitchell, matricule 1309.
Quand le rhume fait mal, prenez Rhinofébrale. Rhinofébrale est un médicament. Demandez conseil à votre pharmacien.
Je ne savais pas que je recevais aussi aujourd'hui Commandant Mitchell.
Bah ouais. Bah la pub, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 4 en fait.
Ouais. Valda, Rhinofébrale, Lipton. Bah
la première, c'était avec Valérie Lemercier qui était une copine à l'époque, surtout à l'époque. Et en fait, dans cette pub Valda, il y a tous les copains. Il y a Valérie Benditti, Marina Foïs, on y est tous.
Je suis un peu déçu, je les ai pas trouvés.
Celle-là, on la trouve plus.
Non, j'ai trouvé que Rhinofébrale.
Ouais. Et il y avait, c'est assez amusant, Rhinofébrale, parce que, mon agent m'envoie sur ce casting et j'arrive dans la salle de casting, la salle d'attente, et je me retrouve qu'avec des bombasses d'1m90 musclées, des musclores, à l'américaine, comme ça, je sais plus ce que je fous là, parce qu'une fois, il m'avait envoyé sur un truc, j'avais pas de cheveux, alors, le gars me dit, vous avez pas de cheveux, je dis, alors ça allait pas, bon, bref. Je vais encore engueuler mon agent, il m'a envoyé sur un truc pourri. Et donc, je passe le casting, avec le texte magnifique que vous venez d'entendre, on me fait éternuer 3-4 fois, bon.
Vous pourriez la refaire, cette voix, là, de commandant Mitchell?
Je m'en souviens même plus, franchement. et du coup, je rentre chez moi, bon, voilà. Et en fait, ils m'ont pris. Et après, j'ai discuté avec le réalisateur qui est Dante de Sarthe, qui est le fils de Gérard de Sarthe et qui a fait des films après. Et il dit, non, mais attends, j'ai rien compris. Ils m'ont envoyé des musclores au robot de l'espace, mais c'est pas ce que j'avais demandé.
Bah, dans le décalage de cette publicité, il fallait pas forcément quelqu'un qui se prenne trop au sérieux.
Et en plus, il me dit, ouais, t'éternuais vachement bien, l'autre, t'étais même pas foutu d'éternuer. Ah bah d'accord. Alors j'ai fait ça et les deux autres après j'ai fait avec lui pour le thé là et puis le l'autre c'était quoi?
C'était
trouvé encore celle-là.
C'est parce que c'était un ami et donc vous avez.
Non, c'est pas un ami.
Ah d'accord.
Mais on s'était bien entendu et à chaque fois il me reprenait.
Bon. C'était une expérience qui collait bien avec la télévision.
À l'époque, c'était pas mal payé. Hein. Maintenant, je sais pas trop, mais Rhinofébrale. Après, on me dit, vous voulez être en silhouette dans les pharmacies? Je dis, c'est temps. Je dis, allez-y. Hein.
Donc, ah oui, vous étiez même carrément...
Ouais.
D'accord, ok.
D'accord. Après, les gamins, ils me coursaient dans la rue à Paris, je me souviens, putain.
Hey, commandant Michel. Oh, la vache. Super, super. Bah, c'est, voilà, c'est une expérience.
Non, mais c'était très rigolo, hein. C'était vraiment très rigolo. Très
bon,
sympa.
C'est pas ce qu'on va retenir.
Non, j'espère.
Le plus de votre carrière, hein.
C'est bah, pas... ceci dit, j'ai un copain qui était à la Comédie française. Mais... un jour, enfin, passe un casting, elle a un casting qui, parce qu'il y en a, faut voir, hein. Une petite jeune, elle fait, regarde son CV, elle fait, ah, c'est vous qui avez fait la pub, Tropico? Ben oui, mais enfin tout le reste c'est la Comédie française. Voilà, faut.
Oui, mais le visuel de cette publicité a peut-être plus marqué.
Oui, oui, sûrement.
La personne que. Le.
Et ce qui est marrant, c'est que la voix qu'on entend, la voix du robot, enfin de, oui. C'est la voix de 2001. C'est Jean Topard, c'est celui qui fait la voix dans 2001.
D'accord.
Du robot de 2001.
Qu'ils ont gardé ensuite.
Ouais.
Bon, c'est pas ce qu'on va retenir, c'est voilà. Ce que je disais, on va retenir.
Ah, tu voulais des anecdotes,
tout
hein.
Le passé. Mais oui, mais c'est une très bonne anecdote. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent en voiture qui ont dit, ah, mais oui, d'accord.
Ah oui, d'accord.
Ah, c'est lui.
J'étais jeune et beau.
En 2004, ouais. Vous allez remporter un prix. Alors, vous n'allez pas remporter le prix de la meilleure publicité.
Non.
Mais vous allez remporter le prix Adami.
Ouais.
C'est quoi le prix Adami?
Le prix Adami, c'était un prix qui récompensait, une compagnie, un metteur en scène, une compagnie, qui était maintenant, on appellerait ça une compagnie émergente. Mmh. Voilà, donc le travail était émergent, remarquable. Et
C'était une sorte d'encouragement pour la suite.
Ouais, c'était un prix, c'était 50 000 à l'époque. 50, c'était des francs ou des euros?
2004, je pense que c'était des euros.
Alors des euros. Mmh. Et c'est grâce à cet argent que j'ai pu faire le cabaret des hommes perdus, en fait.
Et justement, 2007, alors c'est là que vraiment les récompenses vont être plus importantes. Mmh. Parce que le cabaret des hommes perdus est salué par la critique au point d'être nommé au Molière de la meilleure mise en scène et vous remporterez le Molière du meilleur spectacle ouais. Musical. C'est à ce moment-là qu'on ressent un vrai sentiment d'accomplissement pour une œuvre.
Ouais, c'est assez. Franchement, je vais pas m'amigerer, mais c'est assez incroyable quand même. Surtout que la même année, il y avait Cabaret Amogador, et je me souviens quand ils ont annoncé les résultats, enfin donc j'ouvre l'enveloppe, machin là, mm. Et donc et le gagnant est Cabaret, et je vois les mecs de Cabaret qui étaient à côté de moi qui font des hommes perdus. Bon, c'était assez jouissif en fait.
Vous avez eu peur pour le discours?
Ah oui. Sur le prix de l'Adami, je me souviens, j'avais tellement peur que je regardais que Michel Duchaussois qui était dans le public avec qui j'avais travaillé et je dis je le quitte pas des yeux sinon je sais pas ce que je vais dire. Oui et puis alors moi comme j'ai pas peur de parler en public mais c'est vachement non c'est très impressionnant en fait. Donc faut dire au Molière on est devant un parterre que de professionnels qui savent pas qui on est d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, ouais. Oui, qui découvrent la majorité qui vous êtes.
Donc ouais, c'était très impressionnant ça.
Parce que souvent, quand on regarde les Césars, quand on regarde les Victoires de musique, on dit « Oh, c'est bon, il est encore en train de pleurer, juste parce qu'il a gagné le titre.
Ouais, » ouais,
mais
ouais.
Oui, il y a cette impression qu'on n'a pas, en fait.
Et quand je regarde d'ailleurs les extraits de l'émission, parce que je les ai, je me dis « Oh, j'ai dit ça, j'aurais dû dire ça, mon Dieu, mais là, c'est trop tard. »
C'est trop tard, parce que c'est le passé, on parle beaucoup du passé, mais il serait bien de revenir un petit peu au présent.
Ouais.
La vie de Jean-Luc Révol, maintenant, c'est quoi?
Bah, il se lève le matin et dort le soir, hein.
Et entre-temps, il est un petit peu directeur de la maison.
Ah oui.
Depuis 7 ans.
Ça, c'est super.
Depuis 7 ans.
J'adore.
Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien?
Bah, ce qui a changé, c'est que...
D'être un petit peu plus dans l'ombre qu'avant?
Oui et non, puisque dans Le Chevalier, je joue un peu, et j'ai fait une mise en scène cette année, j'ai d'autres projets. Je suis pas dans l'ombre. C'est vrai que en 2015, après Le Roi Lear, quand j'ai postulé, parce que j'ai pas été mis là... comme ça, pas par le fait du prince, hein. Mm. J'ai passé les entretiens et tout. D'ailleurs, c'était intéressant.
Il y avait une certaine légitimité quand même à ce que vous soyez directeur de la maison parce que vous avez un vécu que peut-être les autres n'avaient pas aussi.
Oui, je m'étais déjà présenté au Phénix à Valenciennes il y a longtemps et puis j'ai pas été retenu, ce que je comprends. Et là, bon, bah là, ça a marché. C'est comme ça, hein. Mais c'est vrai que je connais bien le territoire parce que j'ai toujours été ici, donc c'est pas un problème, mais. En même temps, être l'enfant du pays, c'est pas forcément un atout. Faut faire attention à ça aussi.
Qu'est-ce que ça peut avoir comme désavantage?
Je ne sais pas, mais on peut, c'est pas vous prendre au sérieux, mais voilà, on peut vous taper dans le dos plus facilement, je dirais.
Mais vous savez peut-être plus que les autres ce que recherchent les personnes du territoire.
Ah oui.
À voir.
Oui, j'ai tourné dans le département, dans le territoire, dans l'agglo. Je connais bien la région, c'est évident. Non, le quotidien, bah, c'est faire marcher la baraque, comme je dis là, la maison, pour faire la programmation. La programmation, c'est un peu la cerise sur le gâteau, même si c'est pas évident. Surtout que dans l'émission, ça doit être une programmation pluridisciplinaire, donc il doit y avoir de tout, du cirque, de la danse, des vedettes, des jeunes compagnies. Donc il faut comme ça trouver l'équilibre, et puis aussi que financièrement, ça rentre dans les clous, parce qu'à la fin de l'année, je dois être à l'équilibre, je peux pas acheter l'argent par les fenêtres non plus.
Cette programmation-là de cette année, vous la trouvez réussie? Elle vous convient?
Ouais, pas mal.
Vous avez une tête d'affiche que vous aimeriez absolument avoir l'année prochaine?
Non. Ah, je voulais avoir Véronique Sanson. Bon, parce que moi j'adore Véronique Sanson, j'aurais pu prendre un extrait de Véronique Sanson. Mais c'est vraiment trop cher, là. Ils sont devenus fous, là, après le Covid.
Quel regard vous avez maintenant sur l'évolution du théâtre? Vous recevez aussi d'ailleurs des résidences, des fois,
ouais,
à la maison.
Des résidences
vous allez les voir, vous les conseillez des fois, ils viennent vers vous?
Non,
pas spécialement.
Je suis pas là pour ça. Ouais. Non, là, on vient de créer hier le Village des Sourds de Léonore Confino. Ils ont répété pendant 15 jours.
Qu'on a reçu, oui, sur Bac FM, on allait faire un reportage.
Voilà, et nous, on est là pour mettre en lumière des artistes. Voilà. Avec une part d'artistes de la région et une part d'artistes au niveau. Parce que la mission de la maison aussi, c'est de rayonner au niveau national, voire international. Mais enfin, on n'en est encore pas là. National, oui. Et voilà. C'est soutenir des artistes, avoir une dynamique, trouver des nouveaux publics. C'est vraiment un autre genre de travail, mais c'est assez passionnant, quoi. Ouais.
Et justement, cette évolution du théâtre, vous avez connu le théâtre dans des...
Moi, j'ai travaillé dans le privé et dans le public. Donc, moi, monter sa compagnie maintenant, c'est
compliqué.
C'est pas compliqué, mais c'est-à-dire qu'il y a, je pense, 50 fois plus de monde sur le
marché.
Sur le marché qu'en 80.
L'époque 90. Du Splendide et du Caramel Fou, c'est révolu.
Bah, je pense, ouais. Et puis il y a des modes, maintenant c'est les humoristes. On passera à autre chose après.
Que vous recevez beaucoup à la maison, hein, des humoristes.
Ah ben peu, en fait.
Vous trouvez?
Ouais. On en a un ou deux. En général.
Il y a Haroun qui est venu récemment?
Ouais. C'était bien Haroun.
Ah oui, Gizmo, c'est pas... Oui.
Non, parce que le théâtre municipal,
oui, théâtre municipal
reçoit beaucoup plus d'humoristes. Donc, on travaille en très bonne entente. Donc, je trouve que c'est bien
d'équilibrer.
D'équilibrer. Oui.
Jean-Luc Révol, ça veut dire quoi? L'art du décalage.
Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, je suis jamais vraiment là où on m'attend. Enfin, mon travail de mise en scène. Là, le Chevalier, c'est un classique. Je pensais pas faire un classique, mais je travaille sur un projet depuis 2 ans pour le rond-point qui s'est pas fait. J'avais envie de refaire un classique, on m'attendait pas là. Donc,
vous n'aimez pas rentrer dans une case?
Je le fais sans calcul, en fait. Moi, à chaque fois que j'ai fait des choses, c'est des aventures humaines. C'est pour un comédien que j'ai adoré rencontrer, je vais faire son spectacle. Voilà, là, j'ai un projet, je sais même pas si je peux en parler. Mais, je le fais parce que j'adore cette femme. Mais si ça se fait, je le ferai parce que j'adore cette femme.
On peut savoir un petit peu?
Non.
Toujours pas?
Non. Alors, je suis très superstitieux.
Vous êtes dur en affaires.
Je suis pas dur, mais je suis superstitieux.
J'aimerais pas vous vendre ma maison.
Mais non, mais je suis superstitieux parce que si ça se fait pas.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Non, moi je suis comme. Non, j'aime pas parler des choses qui sont pas encore faites.
On va parler de quelque chose qui a été fait. En revanche, l'année dernière, c'est pour ça que je vous demande qu'est-ce que l'art du décalage.
Ouais.
C'est le titre du livre qui est sorti l'année dernière, écrit par Frédéric Chevaux et vous-même. Car ce sont vos confidences qui sont retranscrites. Des confidences sur votre vie, sur votre parcours professionnel.
Ouais, plus sur le parcours professionnel. Plus. En fait, ça devait pas sortir à l'avant-scène théâtre, et puis il se trouve qu'ils ont fait une collection sur les nouvelles collections sur les metteurs en scène, et ils nous ont proposé de l'éditer. Donc moi, je voulais pas faire un livre de comment ma vision du théâtre, même si on en parle un peu, mais sur ma méthode de travail. Voilà, c'était pas un livre didactique, c'était un livre vraiment de souvenirs qui est vraiment fait pour les gens avec qui j'ai travaillé. Voilà.
Vous avez hésité à le faire ce livre? Quand on vous l'a proposé?
Non, je pense que c'était le bon moment. Après, je me dis, ça va intéresser qui? Mais en fait, visiblement, même les gens qui me connaissent pas...
Il a plutôt bien marché.
Ouais, ils prennent beaucoup de plaisir à lire, ça se lit très vite. Et puis, on a gardé la formule de l'interview, qui rend ça beaucoup plus vivant.
Oui, qui rend ça plus humain, plus vivant, moins rédigé. Oui.
Voilà, bon, on a coupé toutes les bêtises, je trouve ça intéressant, évidemment.
Est-ce que Jean-Luc Révol, l'art du décalage, ça pourrait être le titre d'une prochaine création de la compagnie TCF?
Non.
Ni l'objet, ni l'objet d'une...
Non, parce que la prochaine création, là, ça sera Le Jour du Chien, c'est un texte d'une auteure belge. Et après, sera un musical, et après, on verra.
On est revenu sur votre carrière,
ouais,
avec cette expo notamment. Est-ce que vous avez ce sentiment d'accomplissement quand vous repensez à votre carrière?
C'est une bonne question, mais est-ce que j'ai un sentiment d'accomplissement? Je pense que j'ai fait pas mal de choses. Quand ça va s'arrêter, honnêtement, quand ça va s'arrêter, parce qu'il faut bien que ça s'arrête, hein, je ne vais pas m'accrocher.
Vous y pensez des fois?
Au rocher comme Sisyphe, forcément ça va s'arrêter.
Ça vous fait peur?
Non, pas du tout.
Vous n'avez pas peur d'arrêter?
Non. Maintenant, j'ai pas peur d'arrêter, non. Mais je pense que le jour où je dirais, allez, c'est ma dernière mise en scène, je dirais, ça va. Oui, j'ai fait vraiment ce que je voulais et avec les gens que je voulais. Ce qui est important. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai pas été obligé de le faire. J'ai des copains qui font des trucs, j'ai jamais été obligé de faire ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai toujours travaillé.
Est-ce qu'il y a un thème que vous voudriez évoquer sur scène que vous n'avez pas encore eu le temps d'évoquer?
Pas particulièrement, non.
Non. Vous pensez avoir évoqué tous les...
Non, pas tous les thèmes, mais pas particulièrement. Je suis pas très... les thèmes actuels, même si ce sont des thèmes importants, hein, que ce soit les femmes battues, les machins, les trucs, c'est des thèmes importants, mais je pense que les jeunes s'en emparent beaucoup mieux que moi.
Est-ce que vous avez déjà pensé à un seul en scène?
Oui, mais jamais. Never. Never, never, comme je dis. Never.
Vous y avez pensé?
Oui.
Mais vous ne vous sentez apte de le faire?
Je peux le faire, mais moi j'aime le dialogue sur scène.
Oui.
Et puis
on se retrouve aussi un petit peu dans le milieu de la confidence et vous êtes peut-être pas trop à l'aise avec ça.
Non, c'est pas mon truc, le one man. Mmh. Ouais.
Vous êtes heureux, Jean-Luc Revol, à l'heure actuelle?
Moi, je suis un mélancolique dépressif. Donc, ça va.
Avec un petit sourire en coin.
Oui.
C'était ma dernière question.
Ok.
Avant un pêle-mêle de petites questions. Est-ce que vous avez déjà regardé Thé ou café? Alors ça passait le matin, pas à l'heure de Joséphine Ange-Gardien. Mais
longtemps, mais oui. Je regarde peu la télé, pratiquement jamais maintenant.
Question brève, réponse brève.
Okay.
Je vous propose le même exercice.
Mais on peut rester face à face?
Ah oui, on va pas se mettre dos à dos. Bah oui, parce que de toute façon, ça servira à rien. À la radio, on verra pas.
Ah bah oui, c'est vrai.
Oui,
c'est... un peu blonde.
On reste face à face et on est parti. Question brève, réponse brève. Pour finir cet entretien, votre livre de chevet.
Oh, de chevet? C'est dur. Mon livre de chevet, Kafka sur la plage de Murakami.
Votre film culte?
Le Rocker Picture Show, peut-être.
La pièce de théâtre qui vous a marqué?
Les Mélodies du Malheur du Grand Magic Circus.
Votre plus grande peur?
Ma plus grande peur, c'est de nager au milieu des requins.
Votre conseil de vie?
Votre conseil de vie, déjà, je n'arrive pas à gérer la mienne. Mon conseil de vie, c'est d'essayer d'être heureux.
Votre musique pour vous réveiller?
Bon, pour écouter Beyoncé, ça réveille bien. Le dernier, il est pas mal.
Votre plus grande fierté?
C'est d'avoir réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Comme me disait Robert Hossein, t'as la chance de faire ce que t'as envie dans la vie. Il y a tellement de gens qui font un métier qu'ils n'aiment pas.
Et enfin, Jean-Luc Revol, votre mot préféré?
Mon mot préféré? Oh là 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 là! Ça serait plutôt un truc comme genre joie, bonheur, des choses comme ça. En tout cas, un mot positif. Mais...
On garde un mot positif?
Ah oui, un mot positif, c'est sûr. Je déteste les gens négatifs.
Et on reste là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Luc Revol.
Merci à vous. Hein.
Jean-Luc Revol était mon invité pour ce quatrième portrait de Parlez-moi de vous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
De rien, je suis encore sur la souffrance du questionnaire, mais ça va aller.
Allez, on va boire un café.
Ouais, merci.
Merci.